Le mercato du PSG face au mercato des autres cadres européens. Bienvenue dans le Paris Central Show. Ce soir, on est avec Basto, on est avec Ackermann, on est avec Zedrias. On va parler de tout ça. J'espère que vous êtes prêts. Salut les gars.
Salut à toi.
Salut tout le monde.
Salut à tous qui vont nous regarder. Salut Gaboum, salut Johnny, vous êtes en avance. On aime ça. Ah, tonton, il n'est pas là aujourd'hui. Désolé, tonton, il n'est pas là. Bah, je vais vous lancer direct sur les sujets. Alors, déjà, on va parler dans un premier lieu du mercato du PSG tout seul, uniquement. Et après, on va parler des autres clubs et on va voir si on est toujours considéré comme des grands favoris pour l'année prochaine. Dreas, l'ordre des écrans, tu connais.
Ouais. Ah, il faut que je donne mon avis sur le mercato du PSG. Bah, ouais, enfin, est-ce que la date du mercato a été ouverte? Parce que je suis pas sûr qu'il ait commencé en fait. On a recruté Vitinha, qui est un joueur qui est très intéressant, qui a fait une très bonne saison à Porto, qui était considéré comme des révélations de la noce, surtout après son expérience à Wolverhampton. Mais pour le reste, bah, on a eu des rumeurs, on s'est tous emballés sur des rumeurs et certaines semblaient très avancées et rien n'est venu. Donc on a fait Vitinha. Après, dans les comptes, il y a aussi Nuno qui peut-être plombe les comptes qui arrivent cette année. Et pour l'instant, ben, on a plus ou moins le même effectif que l'année dernière, avec un pseudo-loft qui est à moitié au complet et on a du mal à comprendre ce qui se passe.
Alors, petite précision avant de donner la parole à Basto. Normalement, je crois que Nuno Mendes et Vitinha, ils sont passés sur l'exercice qui s'est terminé le 30 juin. Là, normalement, on est sur une autre année mercato. Et donc, normalement, on serait à zéro pour l'instant parce que tout le reste, c'est des prêts avec obligation d'achat l'année prochaine.
Mais
Vas-y,
il y a
Basto.
l'étiquette que j'ai oubliée. Pardon.
Basto?
Ouais, que dire, je suis aux anges. On a recruté mon coach favori déjà, donc je ne peux être que content. Non, après, c'est compliqué d'avoir vraiment un avis, sachant qu'il reste 5 semaines de mercato. Mais c'est sûr qu'actuellement, bon, on a Vitinha, c'était une recrue qu'il fallait faire parce qu'au milieu, il en fallait au moins une et que c'est un bon prospect comme il faut. Par contre, quand j'ai dit qu'il fallait prendre Vitinha, j'avais dit qu'il fallait un cadre à côté ou un profil. Plus de défense en zone qui nous manque. Et quand je vois que la rumeur la plus présente, c'est Renato Sanchez, pour moi, on se trompe. Renato en rotation, si, allez, en troisième milieu, si on recrute vraiment un cadre, pourquoi pas. Mais seulement lui, s'est donné une carte à Galtier qui ne me plaît pas forcément, sachant qu'il risque de l'utiliser comme titulaire. On a Ekitike, c'est très bien, c'est un joueur que j'aime bien. Maintenant, est-ce que c'est la priorité, sachant que, sans surprise, on devrait jouer avec le trio Messi Neymar, Mbappé devant. Donc, c'est plus un joueur de rotation, sachant qu'il y a déjà Kalimuendo et Sarabia qui peut jouer à ce poste. Donc, si vraiment on n'a pas d'argent, comme ça peut sembler être le cas, est-ce que c'était la priorité? Même si, comme tu l'as dit, c'est un prêt et donc que l'argent est différé, est-ce que c'est vraiment une priorité? Et je vois qu'on est sur d'autres attaquants actuellement. Quand on n'a pas le milieu, quand on n'a pas le défenseur, alors on a Skriniar, ça, je pense que tout le monde était content, mais Skriniar, ça commence à se compliquer. Il y a Mukiele, qui est une grosse rumeur aussi, qui devrait être la prochaine recrue. C'est un joueur, je ne vais pas le cacher, qu'il y a un an, j'étais pour. Maintenant, j'ai appris qu'il avait des problèmes de comportement. En Allemagne, ils en ont parlé hier, notamment dans les médias. J'ai un peu peur que ça finisse comme un Kurzawa ou un Aurier. Et Mukiele, de toute façon, ça reste de la rotation. Donc, que ce soit Renato, Ekitike, Mukiele, Vitinha, pour le moment, on ne sait pas trop Galtier comment il veut l'utiliser, mais pour le moment, j'ai un peu l'impression qu'on est sur des pistes qui sont refaire le papier peint et on n'est pas du tout en train de prendre des piliers pour refaire la fondation de la maison. Donc, si on change le papier peint comme on l'a fait sous Leonardo, peut-être pas l'année dernière parce qu'il y a des stars qui sont arrivées, même si ça a plutôt déconsolidé la formation, mais comme Leonardo l'avait fait les années précédentes, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Maintenant, il reste 5 semaines et on espère que ça va pouvoir se débloquer. Pour ça, faut vendre parce que le mercato, c'est aussi les ventes. Et là aussi, ça bloque, hein, puisque pour le moment, à part les deux gardiens qui étaient prêtés avec option d'achat, donc c'est plus des ventes de Leonardo qui ont été faites avec des options levées. Pour le moment, ça tarde à se décider, donc on est un peu dans le flou. Ouais.
Ok. Samir Zidane dans la maison. Merci pour le super chat. Merci Samir. D'ailleurs,
Il va nous aider à recruter.
ça va nous aider à recruter cet été. Et on va rattraper un peu les coms. Bonsoir l'équipe. Comme promis, je suis présent en live. Alors c'est vrai que je t'ai mis un coup de pression un peu dans la communauté. Tu m'as dit que tu viens, je t'ai dit t'as intérêt. T'es présent. Les Texas Rangers de Lens tient toujours parole. Comme ça, tu l'as prouvé. Salut à toi, Shiraz. Salut Tommy, Vitinha et Ekitike. On a deux joueurs d'avenir, donc le mercato a bien commencé. Zedrias, futur recruteur. Ouais, il y a du monde ce soir. Yo, salut, salut Brandon. Salut un mec de YouTube. Tonton répond, je sais pas qui a dit tout à l'heure que Tonton il était pas là, il est en vacances.
Il est toujours là,
Tonton, il est toujours dans les parages. Au moins, le mercato n'est pas bling bling, conformément aux propos de Nasser. Alors là, on peut dire que Nasser, il a la vérité. Il a pas menti.
Et franciser l'effectif, il ment pas non plus.
Faut une profondeur de banc. Vas-y, Drias.
Non, juste franciser l'effectif, c'est 50-50 parce que Vitinha, il n'est pas démasqué.
Ouais, mais Mukiele, a priori, arrive. Donc ça ferait 2 sur 3.
Salut Hassan, salut Mishima, salut Ultrafan, salut à tous. On a avec nous Ackerman de notre chaîne Foot Central. Je ne sais pas si vous êtes abonné à Foot Central, mais n'hésitez pas, où on parle un peu plus du football en général. Ackerman, d'un point de vue extérieur, toi qui es supporter du FC Barcelone, qu'est-ce que tu penses du mercato du PSG jusque-là?
Moi, je pense que le mercato du PSG, je trouve vraiment très, très intéressant, dans le sens où je sais que pour certains, c'est assez choquant, parce qu'on est l'habitude de voir le PSG justement trop dépensé sur le marché durant les dernières années. Et quand on voit justement les profils ciblés par le club, je trouve ça très intéressant. Mais le problème, c'est que les clubs en face ne font pas forcément les efforts, dans le sens où ils pensent que le PSG, c'est la direction de l'époque, et qu'ils pensent que justement le PSG va commencer à dépenser des millions et des millions. Je prends l'exemple de Skriniar, il a un an à la fin de son contrat, et on voit que ça bloque parce que l'Inter ne veut pas le brader. Et justement, on voit que ça met du temps et que l'Inter commence à s'impatienter. Et moi, je trouve que justement, le PSG, même s'ils n'ont pas beaucoup de recrues, il y a eu Vitinha et Chiquité, de profils intéressants pour le club et l'avenir aussi, parce qu'on sait que le PSG de base, c'était pas forcément une équipe qui misait sur les jeunes. Et quand tu vois les joueurs ciblés, tu vois Chiquité, un bon jeune de Ligue 1, tu as Vitinha qui est un bon prospect aussi. Et je pense que justement, le PSG va peut-être faire un mercato un peu plus ciblé par les profils et moins en quantité, comme on a eu l'habitude de le voir à l'époque. Et pour le coup, je trouve vraiment ça très intéressant et je pense que vous êtes entre de bonnes mains, Campos.
Je peux réagir, Anix ?
Ouais, vas-y.
Ouais, juste, en fait, si tu veux, pour moi, il y a vraiment, c'est une chose que de recruter Messi, c'en est une autre de recruter Skriniar. Skriniar, tu corresponds à un besoin, tu corresponds à un manque, surtout quand tu as envie d'installer une défense à 3. Et tu n'es pas juste dans le recrutement d'un nom. D'ailleurs, si on parle de nom, Skriniar, ouais, le seul truc, c'est que c'était cher. Mais après, si tu veux, quand tu as besoin de relancer un projet, tu as besoin d'avoir des gens qui incarnent ce projet. Et quand tu n'as que Vitinha et l'étiquette, enfin, et Kitike, parce que j'ai un peu de beaucoup, l'étiquette, c'est plus rapide. T'es pas avec des joueurs qui, mine de rien, sont à même d'incarner le virage du projet. Et pour l'instant, ce joueur qui incarnerait le virage du projet, on l'a pas eu, mine de rien. On n'a pas eu, où tout à coup, tu vois, par exemple, t'as des clubs qui vont mettre du 50-60 sur des joueurs qui correspondent à des profils qui sont pas forcément des grosses stars. Et c'est peut-être là-dessus qu'on attendait Paris, et a priori, ça viendra pas. Et du coup, je partage ton avis, mais je partage aussi cette inquiétude par rapport à ce que disait Basto. Basto avait une expression un petit peu dure, dans le sens où on refait le papier peint, c'est un petit peu plus que ça, on sent qu'il y a quand même un peu de viande derrière, mais il manque d'une certaine manière le muscle de ses intentions. Et la signature d'un Skriniar, même, alors 70 millions, effectivement, c'était trop, mais s'il avait pu partir à 60+5, par exemple, ça aurait été très cohérent et ça aurait bien lancé les choses dans ce sens-là. Ou justement, tu vas mettre l'argent là où tu as des besoins, tu vas pas mettre l'argent sur un nom, sur une star, comme on a toujours fait au Paris Saint-Germain.
Si je peux réagir.
Ouais, Basto, je te laisse réagir. Juste quand tu réagis, réagis à cette question-là aussi, parce que je trouve qu'elle est intéressante. Samir qui nous dit, comme il n'est pas supporter parisien, quels seraient les postes restants à pourvoir. Donc ça va dans le sens de ce que tu allais dire, je pense.
Ouais, j'allais parler. Donc, on a décidé de jouer dans un système à 3, donc un 3-4-1-2. Et on n'a pas les joueurs pour le moment pour. C'est-à-dire qu'il manque évidemment un défenseur central de grande qualité comme Skriniar. Et donc Skriniar, comme le dit Ackerman, 70 millions à un an de la fin de contrat. Je peux comprendre que Campos ne veulent pas surpayer. Mais on parlait d'un plan B qui est Koundé qui finalement irait ailleurs. Est-ce qu'il y a une vraie piste derrière, tu vois, moins cher? Est-ce qu'on l'a? Ça, on ne sait pas. Il reste 5 semaines. Ça commence à me faire un peu peur qu'on sort un prospect qui ne soit pas encore prêt, alors qu'on a vraiment besoin, pour le coup, d'un cador en défenseur central. Pour répondre à notre internaute, il manque aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un milieu. Dans ce milieu à deux, on a Vitinha, Verratti, qui peut-être marcher ensemble, mais pour être sûr, il manque un profil qui serait un milieu créatif, mais qui sait défendre en zone, qui ne permettrait pas de tout mettre sur la charge de Verratti. C'est vrai qu'on cible Renato Sanchez. Renato est quelqu'un qui va apporter par ses courses offensives dans l'espace vide, mais c'est quelqu'un qui défend plutôt mal. Ce n'est pas quelqu'un qui a un très bon taux de pressing réussi, même tenté. Et donc, on pourrait avoir un milieu un peu free à Brenato. Je le vois plus comme une sortie de bande-touche en fin de match pour apporter du surnombre. Et il manque, quand on veut jouer dans ce système, il manque un attaquant pivot. Donc là, quand on parlait de Scamacca, on était dans le sujet. Maintenant, c'est cher par rapport à son niveau. Est-ce qu'on est sur un autre profil de ce type toute façon, je pense qu'on jouera avec Messi, Neymar, Mbappé. Il faut peut-être pas s'encombrer d'attaquants. Comme je l'ai dit, il y a Kalimuendo, il y a Ekiteke, il y a Sarabia qui peuvent jouer. Ce sera pas cette année qu'on aura l'attaquant pivot. Ce sera peut-être l'année prochaine au départ de Messi. On peut peut-être pas tout faire d'un coup. Donc pour moi, là, la priorité, ce serait un grand défenseur central et un grand milieu. Donc voilà, un milieu type. Moi, c'était Matheus Nunes que j'aimais bien. A priori, il se dirige vers Liverpool, mais voilà.
Ok, ouais, on va commencer à évoquer quelques pistes tout à l'heure, on va un peu rattraper les commentaires, parce qu'il y a Noumisma qui nous dit « Merci pour le live en soirée ». Alors franchement, d'habitude, je sais, on a l'habitude de le faire à 13h. Après, Tonton, il est parti en vacances, bah, j'ai dit, j'ai sauté sur l'occasion parce que vous êtes nombreux à nous demander de faire des lives en soirée. Donc j'ai dit, je prends la place à Tonton et on va essayer de faire ça en soirée, donc j'espère que vous êtes contents. Il y a Hassan qui dit qu'il n'y a pas d'oseille cette année à Kerman. Mais s'il est arrivé gratuit, son salaire est conséquent, mais il rapporte...
Un quart de la masse salariale.
Ouais, bah, partout où Messi va, il y a des problèmes de masse salariale. Ça, c'est fou. ouais. Dryas, il a déjà même commencé avant qu'il fasse des matchs. Il commence à le vanner direct avec son étiquette.
Ça va aller, c'est pas, pas prononcé son vrai nom de famille, du coup.
Ekiteke, c'est toi qui galérais pour le dire, Basso.
Pour moi, le gros billet qu'il fallait poser pour une tête d'affiche pour un nouveau projet, c'est Tchouaméni. Il ne voulait pas venir fin du dossier.
Après, c'est le... c'est le problème aussi, c'est que Campos est arrivé tard et donc ce sera plus l'année prochaine peut-être qu'on pourra voir sa vraie force. Maintenant, on nous avait dit aussi qu'on voulait aller vite, qu'on voulait au moins 4 recrues au stage au Japon, et c'est vrai qu'on n'en a qu'une, dont un qui est resté à Paris. Donc c'est vrai.
Et je vais réinsister sur ce que je disais, c'est pour l'instant, Campos n'a pas encore marqué son territoire. Bon, alors là, laisse tomber, on va perdre Basto s'il lit ce commentaire. Campos n'a pas encore marqué son territoire. Tu vois, pour l'instant, on n'a pas vraiment entendu. On a surtout entendu Nasser, etc. Pour l'instant, ça reste dans les déclarations. C'est pas dans les faits. D'une certaine manière, on a un peu le jeu avec peut-être Sacramento. Ça, on en parlera plus demain. Mais il n'y a pas encore ce truc de bon, moi, je suis arrivé. Et il y a tous les doutes qui se réveillent au travers de ça et tous les commentaires qui vont dans tous les sens. Pour l'instant, c'est très léger, quoi. C'est vraiment très léger. Et le truc,
il va me perdre, Samir, là.
À Paris, on a l'habitude des panic buy fin août ou le fameux mercato d'opportunité de Leonardo qui nous a mine de rien un peu traumatisé. Et ça serait bien, comme disait Basto, 4 joueurs pour le stage. Bon, ok, c'est pas pour le stage, mais ce serait bien que ça vienne un petit peu, quoi.
Il y a Fran. Qui nous dit, quand tu as 80 millions de budget hors vente, mettre 41 sur Vitinha, je ne suis pas sûr que cela soit le plus pertinent. Et après, il dit qu'on a déjà mis 38 sur Nuno Mendes. Alors, comme je disais tout à l'heure, je crois que c'est sur l'année d'avant. Normalement, là, on est à zéro pour cette année.
Pas sûr de ce que disent les médias. A priori, ce serait sur les comptes de cette année, mais je ne sais pas après.
Ils ont tout levé avant le 30 juin. Et même Vitinha, ils se sont accélérés pour le payer le 30 juin avant que sa clause, elle passe à...
Ouais, parce que ça... Ça rentre pour Porto, ça rentrera dans l'exercice, mais nous, en tant qu'acheteurs, vu que ça vient après le passage à DNCG, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Après, c'est échelonné en 2 ans, de toute façon, non Vitinha, donc c'est plus 20 cette année, 20 l'année prochaine, il me semble. C'est au moment des paiements, quoi.
On pourrait peut-être se repositionner sur Bennacer en milieu défenseur de zone, pas vraiment confirmé, petit de taille, mais très bon. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars?
Pourquoi pas, c'est fait partie des joueurs qui pourraient être intéressants justement dans ce profil-là. Après, je ne vois vraiment pas Milan s'en séparer.
Je voulais rebondir. Ouais, vas-y.
Non, je répondais à ce que disait Basto, c'est que moi je pense que Milan ne s'en séparera pas, sachant qu'ils ont perdu aussi Kessié cette année. Je les vois très mal perdre Bennacer aussi la même année.
Et après, je voulais rebondir sur Vitinha. Vitinha, ça reste un excellent pari. 40 millions, ça peut sembler cher, mais il avait pas mal d'années de contrat. C'est un joueur que tu achètes qui est très jeune. C'est vraiment le futur que tu prépares avec lui. Alors après, là où effectivement, on peut remettre en cause, c'est est-ce qu'on a assez d'argent pour, etc., etc. Mais en soi, Vitinha, c'est un très, très bon pari et le prix n'est pas du tout irraisonnable.
Justement, en parlant de ça, là, on a vu beaucoup de noms sur des attaquants, sur des défenseurs. Et comme j'en parlais avec vous un peu plus tôt dans la journée, est-ce que s'il n'y a pas un gros achat à faire, parce que selon les sources, on n'aurait peut-être que 80 millions à sortir, est-ce qu'il y a un gros achat à faire? Pourquoi le mettre sur un défenseur plutôt qu'un milieu de terrain alors que On peut dire que notre défense, elle n'est pas top top, mais on peut dire aussi qu'elle a beaucoup souffert l'année dernière parce que le milieu, c'était pas du tout ça. Et on a coulé. Il y a eu des vagues, et tôt ou tard, ça a cédé. Mais est-ce qu'avec un bon milieu de terrain, est-ce que la défense, elle ne ferait pas mieux que l'année dernière?
J'ai envie de te dire, si on restait sur une défense à 4, pourquoi pas? Mais vu que tu veux jouer avec une défense à 3, non, il te faut un mec là-dedans. Surtout que tu as un Ramos qui est peut-être le patron de la défense où tu n'as aucune garantie que le mec puisse te faire plus de 20 matchs dans la saison. C'est central, il faut mettre les thunes, quoi.
Puis on voit qu'on utilise Ramos en axe droit et qu'il n'a pas la vitesse pour jouer vraiment espace. C'est vrai que je le voirais plus dans un rôle plus central. L'idée de mettre Marquinhos libéro, sûrement pour essayer de s'incruster au milieu, mais dans ces cas-là, il faut un défenseur droit. Ça ne peut pas être Ramos à la limite à gauche à la place d'un Kimpembe. Mais si tu as Kimpembe, Ramos et Marquinhos, c'est quand même très léger. Les remplaçants qui sont Diallo et Kerrer, c'est pas fiable non plus. Il manque un joueur fiable. Tu peux pas arriver avec ce système-là. Avec seulement ces 5 joueurs-là.
Et le truc pour rebondir, c'est que si tu pars sur une animation avec une défense à 3, ton milieu est à repenser. Enfin, les problématiques que tu avais au milieu ne seront pas les mêmes. Tu as des systèmes de compensation qui sont amenés par la défense à 3 qui font que les enjeux changent. C'est tout à l'heure, Bastien insistait beaucoup sur la défense en zone. Pour moi, la défense en zone est moins primordiale quand tu rentres dans une défense à 3 et qu'au contraire, quand tu es dans une défense à 4, elle est à ce moment-là, enfin, si tu n'as pas la défense en zone, tu vas prendre l'eau, ça va passer trop facilement par l'axe. Il y a les moyens de compenser qui sont différents.
Ah, je vais prendre l'avis un peu d'Ackermann, après on va répondre à ce commentaire parce que peut-être qu'il y a un parallèle à faire avec Basto qui en a marre de Gueye titulaire. On va voir s'il préférait Fofana. Mais avant ça, Hacker, toi d'un point de vue extérieur, supporter du Barça, qu'est-ce que tu penses qui manquerait au PSG cette année? Où est-ce qu'on devrait se concentrer au niveau du mercato?
Moi, je pense que ce serait plus au niveau de la défense, parce que d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression qu'au PSG, il manque un leader naturel derrière. On n'a pas forcément ce mec depuis Thiago Silva qui est le leader vocal, le leader justement défensif, etc. On est que Marquinhos, ces dernières années, c'est un peu compliqué, surtout l'année dernière. Et je pense que justement, ramener quelqu'un qui a déjà un statut de patron, qui est déjà confirmé, Justin Skriniar, ça aurait été excellent, je trouve, pour le PSG, parce que ramener un mec comme ça dans une défense à 3, il n'y a pas mieux à l'heure actuelle. Et je pense que justement, le PSG a besoin de ça, a besoin de se renouveler aussi en défense, de ramener un mec qui insuffle un nouveau souffle à cette équipe-là. Et là, le problème, c'est que les profils sont assez compliqués. Quand on connaît la réalité du marché, quand on voit les prix des joueurs à l'heure actuelle, c'est assez compliqué. Et je pense qu'il va falloir aussi peut-être se pencher sur peut-être des plans B ou des plans C, mais pas non plus n'importe qui, parce que pas non plus ramener des joueurs qui ne sont pas confirmés, c'est que des. Mais pour le coup, j'espère en tout cas que le PSG va trouver le bon profil. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment la défense, c'est vraiment primordial. Sachant que Gachet passe en défense à 3. Ramos, je suis désolé, mais il n'est pas du tout fiable. C'est un mec qui est vraiment. Si tu changes une pièce et tu regardes si tu tombes du bon côté. Et je pense qu'avoir Ramos comme troisième choix cette année, c'est plus simple qu'autre chose.
Ok, merci à cœur. Baston, on va revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Ça fait des jours et des jours que tu te plains que Galtier a prévu de mettre Gueye titulaire. Un profil comme Seko Fofana, qui est comme tu dis, parce que tu as dit que Galtier, il kiffe des profils genre les Mina, tout ça. Est-ce que Seko Fofana, ce serait pour toi pire que Gueye ou mieux? Parce que je sais que tu n'es pas fan des deux, mais...
Tout le monde est mieux que Gueye. Je préfère jouer à 10 que d'aligner Gueye. Gueye, tu es à 10 contre 12, donc je préfère jouer à 10 contre 11 qu'à 10 contre 12. Mais non, Fofana, c'est remettre une pièce qui n'est pas forcément le bon profil dans la balance. Donc, c'est redonner un choix à Galtier. En fait, pour moi, il faut limiter dans les choix possibles. Et je préférerais partir sur, à l'heure actuelle, sur du Verratti-Vitinha, même si il peut y avoir un certain manque de complémentarité, peut-être. Mais pour moi, tu pars avec Verratti-Vitinha. Et tu cherches un autre milieu avec un profil différent, comme je le disais tout à l'heure, et de haut niveau. Mais tu ne donnes pas à des joueurs qui n'ont pas de garantie, qui ont un profil pas forcément nécessaire, comme Dryas l'avait dit dans la vidéo « Est-ce qu'on a besoin d'un box-to-box ?» la vidéo qu'il avait fait avec Sinbad. Que vous pouvez voir, j'étais d'accord avec les propos de Dryas là-dessus. Donc pour moi, il ne faut pas aller chercher un profil comme ça, même si Fofana est un très bon joueur à Lens, un très bon joueur de Ligue 1, qui devrait partir de Lens. Je pense qu'il pourrait aller dans un club un peu plus ambitieux, parler de Marseille à un moment donné. A priori, il va rester, c'est un peu dommage pour lui, mais pas à Paris en tout cas.
Il y a Macam Sepanam qui fait des lives avec nous de temps en temps, qui nous dit qu'il faut absolument un vrai soldat au milieu. Dryas, je te la laisse, grand fan de Calvin Phillips.
Oui, mais alors oui, le Calvin Phillips, pour moi, déjà, c'est si tu joues avec un défenseur en zone, c'est plus pour une défense à 4, c'est plus pour la variété. Après, c'est en fait Calvin Phillips, ça va être ta pointe basse très très, 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 très intéressante au milieu. Et Calvin Phillips, c'est un soldat si on veut, mais c'est surtout le mec qui va être capable de faire le bon geste au bon moment, qui va le faire de manière suffisamment physique pour que la personne ait plus envie de revenir se frotter à lui et qui en même temps a une certaine habileté technique. C'est pas non plus, c'est pas De Bruyne, mais c'est pas non plus un fiche au niveau technique. Il est capable de faire des transversales, il est capable de monter, il est capable de déséquilibrer le bloc quand il faut le faire, mais ne pas le faire. Il a l'intelligence technique nécessaire. Alors après, c'est pas, il a des petits ratés, il a des matchs moins bien, mais c'est au-delà d'un soldat, on a besoin d'un facilitateur de jeu. Tout à l'heure, Basto parlait de Matheus Nunes. Voilà, là, tu as un facilitateur de jeu. C'est un des grands drames du Paris Saint-Germain. Pour moi, il y avait deux axes. Le premier, c'était la transition défensive-offensive. Comment tu passais du milieu à l'attaque et les fameux, enfin, le fameux l'attaquant qui redescend, pour mémoire, ça date depuis Ibra et c'est un problème qu'on n'a toujours pas résolu. Et ensuite de ça, tu avais la problématique de la porosité du milieu. Mais la problématique de la porosité du milieu, tu vas la résoudre de manière complètement différente à partir du moment où tu es dans une défense à trois. Enfin, tout dépend de comment on va jouer.
Après, si
Mais
je peux
soldat, déjà, le mot. Je suis pas
Je veux
fan du
rajouter
mot.
un autre point, qu'en fait on paye depuis plusieurs années le fait qu'on ait des joueurs qui ont des profils assez semblables. Et quand tu vois par exemple Munich, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais qui veut jouer pourquoi pas avec une défense à 3, mais qui a autant des ailiers recentrés que des ailiers de pur débordement, Paris, si jamais on veut changer un peu cette animation et pouvoir passer en défense à 4, tu te retrouves avec aucun joueur de rupture sur l'aile. On n'a que des ailiers recentrés. Il y a quand même des manques, mais ça, ce n'est pas la faute de
Bien.
Coutinho ou quoi que ce soit. C'est sur 5-6 ans. Mais Sarabia, ce n'est plus un ailier, c'est un ailier recentré. C'est plus un
Oui.
joueur, c'est plus un 9,5-9 maintenant. Ce n'est
Un
pas
problème.
un ailier de débordement. Ce n'est pas quelqu'un qui va bouffer l'aile et aller la prendre en vitesse. Donc voilà, en vrai, il y aurait énormément de choses à refaire. C'est sûr que ça ne se fera pas en un an, surtout avec notre budget. Mais ça va être une année, pour le coup. On le dit depuis quelques années, hein. Une année de transition, ben on va le redire cette année, parce que pour le coup, c'est une année de transition, celle-là pour de vrai.
Ok, j'ai des petites questions que j'ai gardées sur la main et que j'ai vu passer dans les commentaires qui sont plus ou moins intéressantes. On a déjà un truc que Basto il dit souvent, donc il sera content. Il y a Papy94 qui trouve qu'il y a une incohérence à vouloir jouer avec Messi et Neymar, tous les deux, en plus de vouloir jouer à deux devant. Je te relance là-dessus, Basto, je sais que tu es un grand fan de cette théorie.
Bah oui, les deux ont tendance à lâcher le ballon que dans l'axe et déjà ne pas ce qui empêche nos pistons d'être servis très vite dans une orientation jeu côté. Et puis dans un système comme ça, il faut un attaquant pivot qui reste en remise ou en attaquant surface, soit pour aller faire des têtes sur les réceptions de nos pistons, soit pour avoir une autre manière d'orienter le jeu qu'au sol en lâchant la balle sur des petits redoublements, etc. etc. Ça, c'est évident que pour moi, il manque
Et
un attaquant.
je rajouterai un truc, c'est que si t'as les deux sur le terrain, puisqu'il a Mbappé et que c'est Neymar qui perd la balle en Ligue des Champions, bah t'as plus du tout de pressing.
Ouais, puis avec notre milieu, ça peut être. Les transitions à la perte du ballon peuvent être compliquées dans ce.
Scamacca, il irait à West Ham, ouais. C'est presque fait.
Je crois que Basto, il a des comptes cachés et il doit envoyer des commentaires en même temps parce que tout ce qu'il nous a dit cet après-midi, ça passe dans les
Ouais.
commentaires.
Mes mains sont là, aucun
Et
téléphone en
y
dessous.
a un commentaire qui rejoint ce qu'il a dit cet après-midi. Mais Ackermann qui est avec nous, qui voit les vidéos récentes du Barça à la plage et tout ça, pourra dire que c'est un club med un peu partout en ce moment. Les joueurs, ils kiffent, ils sont en vacances, ils sont dans des endroits un peu où il y a le soleil, tu vois, ils
D'accord
kiffent.
avec cette lecture. Je suis pas d'accord avec cette lecture parce que tu vois, enfin, c'est pas parce que tu as une séquence où tu vois les mecs en train de faire un jeu de chat ou de je sais pas quoi, ou tu les vois en train de faire un taureau, que ça va te permettre de résumer les 3 heures d'entraînement qu'ils ont eu avant qui étaient en dehors des caméras, quoi. C'est plus des séquences que les gens vont prendre quand ils ont envie de faire une démonstration, comme Basto, on est souvent
Elles sont
coutumier.
toutes sous caméra, les séquences au Japon, pour le coup.
Hein? De quoi?
Elles sont quasiment toutes sous caméra, hein, toutes les séquences en intégralité.
Pas en intégralité, je crois. Non,
Sur le
non, parce que
programme, la veille du premier
non, non,
match,
non,
en
non, non,
intégralité,
non,
c'est.
non, non, t'en as quelques-unes. Et d'ailleurs, tu les vois faire des choses complètement différentes de ça. Tu les vois d'ailleurs, il y a un truc qui est très intéressant, tu les vois travailler sur des ateliers techniques, mais avec ballon, comme quoi la périodisation tactique, a priori, elle est en place.
Pas
Mais
sûr. Je suis pas sûr de ça parce qu'il y a énormément de jeux sans
tranquille.
ballon aussi qu'on voit. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait
la... Non. Ils ont toujours, sur tous les exercices que tu les vois faire, qu'ils soient individuels ou collectifs, bien sûr qu'il y a des moments où il faut sauter par-dessus des trucs, mais il y a toujours le ballon qui est impliqué. Bah,
comme dans... Oui, mais ça, c'est la... Même... Mais ça, dans tous les coachs, la plupart des athlètes sont avec ballon, c'est juste
que... Je finis juste. Tu veux... Là-dessus, on n'est pas du tout d'accord, mais c'est pas grave, on va pas épiloguer. Et c'est juste que au niveau des entraînements, certains étaient filmés, c'était les entraînements publics, et justement, on les voyait pas jouer au chat et la souris, et qu'il y a énormément d'entraînements qui aussi ont lieu en huis clos et pour lesquels il n'y a pas d'image. Donc après, aller sortir un truc où ils font chat et où ils jouent au chat et la souris et pour dire ah, vous avez vu.
C'est pas moi qui le sors, c'est la presse qui nous vend qu'il faut de la discipline et des trucs, et la presse en contrepartie, ils mettent que des trucs où les gens ils sont des petits bisous.
C'était déjà expliqué cet après-midi. Et Ackermann, il est avec nous aussi. Toi qui suis le compte du FC Barcelone, qu'est-ce que tu vois en ce moment? C'est des joueurs en train de s'amuser un petit peu. Moi, j'ai vu, ils étaient quatre au bord de la plage, avec ils couraient pour aller dans la mer. J'ai vu comment il s'appelle, Memphis Depay, à une soirée Spotify en train de danser. T'as vu ça partout. Toi aussi, tu le vois à cœur.
Bien évidemment, mais moi je trouve ça ridicule. Enfin, c'est des joueurs de football, ok, d'accord, mais ils ont quand même le droit de souffler un minimum. Quand on sait que les préparations physiques, c'est des périodes assez compliquées, où ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup justement de discipline à certains moments, mais à la fin de journée, à la fin de l'entraînement, tu peux aller souffler tranquillement et faire autre chose. Il n'y a pas que le football qui compte, et même pour la cohésion de groupe, c'est important. Quand tu sais que des personnes, tu peux créer des affinités, etc. Sur le terrain, je trouve que c'est très important aussi que des personnes à l'extérieur, justement, s'entendent bien comme ça et qui jouent ensemble à d'autres choses, et pas que le football.
C'est pour la cohésion.
Ouais, je suis complètement d'accord avec ça.
Et barbecue.
Ouais, exactement. Moi, je trouve que le groupe, il vit bien. J'ai même vu des trucs aujourd'hui. Après, c'est la presse. Donc, il y a un peu tout et n'importe quoi qui sort. Mais j'ai vu comme quoi la relation entre Neymar et Mbappé, ce serait un peu remise comme elle était avant. Après, c'est des rumeurs de trucs. Mais j'ai l'impression que le voyage au Japon, là, et je vois que tout le monde rigole et ça peut faire du bien au groupe.
Très, très important, je trouve. Même pour un groupe, ce serait très important pour certains matchs. C'est des fois, quand t'as pas de cohésion, t'as pas forcément envie de faire l'effort pour les autres. Et l'aspect là, c'est différent. Tu vois.
Okay. Très, très bonne remarque. Là, je vais vous lancer sur entre guillemets, la deuxième partie du sujet. L'année qui vient de passer, en général, les bookmakers partout dans le monde mettaient le PSG dans le top 3 des favoris à gagner la Ligue des Champions. À partir de cette année, déjà l'année dernière, est-ce que vous les voyez top 3? Donnez-moi juste un chiffre. Par ordre de caméra, Zedrias, tu les voyais top 3 l'année dernière?
Non. Mais après, sur le moment, si tu veux, tu as cette espèce d'euphorie qui vient avec la signature de Messi, mais c'est juste de l'euphorie parce que fondamentalement, non.
Basto?
Non, je pense que tu avais Munich, Liverpool, City qui étaient devant nous, voire le Real. Bah, de toute façon, ils l'ont gagné, mais on aurait pu se mettre à égalité. Chelsea, je nous serais mis sur la même ligne, tu vois, mais tu avais City, Munich et Liverpool. Donc non, plus top 5 que top 3.
À cœur?
Non, pas du tout. Enfin, comme il a dit Basto, enfin, je trouve qu'il y avait des équipes plus intéressantes devant, beaucoup plus de cohésion et beaucoup plus de certitude. Et Pochettino, c'est assez fou.
Oh, Samir Zidane. Et merci.
C'est parce que le groupe vit bien, c'est pour les brochettes et le barbecue. Voilà.
Le groupe vit bien, merci Samir.
Samir, il
veut Alors, le gros chantier, surtout au milieu. Ah oui, là, j'ai perdu le fil. ma question, c'était est-ce que cette année, vous pensez que dans le chiffre que vous avez donné la saison dernière, est-ce que vous pensez qu'on a un peu plus reculé dans ce top 10, top 20 par rapport à l'année dernière, vu de, par exemple, Haaland qui va à City, Nunez qui va à Liverpool, le Bayern qui a fait un très bon mercato aussi, et qui va pas permettre à Nagelsmann de jouer dans son système favori. Donc, est-ce que vous pensez qu'on a reculé dans la hiérarchie? Ouais.
Raya, vas-y, c'est bon.
Bah, je pense pas, en fait. Je pense pas. Et comme le disait Basto, on est vraiment dans le cadre d'une année de transition. Donc, c'est très difficile de nous évaluer. En fait, les forces en présence qui étaient là l'année dernière, malheureusement, heureusement, en fait, elles sont toujours là. En termes de départ, pour l'instant, ce que tu as enregistré, c'est des joueurs qui n'étaient déjà plus là. Et les joueurs qui sont dans le loft, c'est des joueurs qui n'étaient pas si importants dans l'effectif l'année dernière. Donc, grosse merde, tu as le même effectif. Tu as même rajouté Vitinha. Donc, je nous vois plus ou moins pareil. Plus ou moins pareil, c'est pareil, top 8, quoi.
Basto?
Je nous vois pareil dans le classement. Par contre, je pense qu'on, si en l'état actuel, après, c'est compliqué de juger un mercato qui n'est pas terminé. Mais je pense que l'écart avec les équipes que j'ai citées tout à l'heure s'amplifie et l'écart avec les poursuivants peut se réduit peut-être un peu. Donc, tout à l'heure, on était 5, peut-être plus proche du 3-4. Et là, les outsiders qui sont pour moi maintenant, on est clairement en dessous de City, Munich, Liverpool, sur le papier en tout cas, en l'état actuel.
On va passer avec Hacker qui, entre guillemets, après avoir répondu à cette question, tu nous feras un petit résumé du mercato de ton club. Parce qu'il est possible que peut-être avec le mercato qui vient de passer, si ça se trouve, même le FC Barcelone qui sort un peu des enfers, on va dire. Peut-être que même eux, peut-être, selon toi, est-ce que tu penses qu'ils repassent devant nous dans la hiérarchie, entre guillemets, sur le papier?
Pour ce qui est du PSG, moi honnêtement, je les enterrais pas, je les mettrais même top 2 pour moi. Parce que je trouve que l'année dernière, c'était une année assez compliquée. Parce qu'ils ont récupéré quand même un Messi qui venait de quitter une ville qu'il a connue depuis 15 ans, assez compliqué. Un Ramos qui n'était pas forcément fiable et t'avais pas forcément les bons profils à certains postes. Quand tu sais que Hakimi c'était plus un piston mais qu'il était latéral. Quand tu sais qu'au milieu de terrain, c'est assez compliqué, que Verratti était seul. Donc ce qui fait que c'est assez compliqué, mais. J'ai l'impression que Galtier, il a un projet de jeu, il sait là où il veut aller, il sait, entre guillemets, les joueurs qu'il veut. Et moi, je pense que ce qui manque au PSG à l'heure actuelle, comme je dis, c'est un défenseur central pour moi, il en manque un. Et je pense que c'est la dernière pièce pour moi, voire peut-être un milieu de terrain en plus pour aider Vitinha et Verratti. Mais en tout cas, pour moi, je les mettrais top 2 parce que je trouve que malgré tout, ils ont quand même l'effectif pour y aller. Et ce qui, justement, leur manquait à l'époque, c'était leur profondeur de banc. C'est ce qui a fait gros défaut à l'époque où, quand tu changeais des joueurs, ton animation n'était plus pareille. Et là, quand tu vois, entre guillemets, les nouveaux arrivants, quand tu vois Ekitike, enfin, qui ne sera pas forcément titulaire pour moi, mais qui aura des minutes et qui va jouer. Quand tu as Vitinha qui vient d'arriver et qui va de retrouver aussi, je trouve que l'effectif global commence à devenir intéressant, même si pour moi, tu vas devoir quand même vendre parce que tu as quand même des joueurs qui ne sont pas forcément bons et qui ne doivent pas être là pour moi, comme Kurzawa. Mais bon, je peux refaire le débat. Mais en tout cas, moi, je pense que j'ai vraiment des grosses cartes à jouer pour moi et je les verrai bien au-dessus. Et pour ce qui est du Barça, le Barça, je ne les mettrai pas dans le top 5 ni top 10. Parce qu'on a quand
Ah,
même une.
escroc,
On a quand même été en Ligue Europa et c'est quand même un gros point noir, je trouve, justement pour ça. Après, c'est vrai que le mercato du Barça est très intéressant. On a des profils intéressants, on a quand même une direction qui fait un très bon boulot. Mais pour que
oh.
les gars.
C'est facile de vendre à chaque
Les
fois
400 millions, ils
sont
revendent
achetés par hop
encore
là,
un peu à l'Allemagne.
spéculation.
Ils vont être en dans 5 ans, Barcelone.
Et du coup, ils font un beau boulot en termes de profil de cible, etc. Et comme je dis, c'est le mercato sur papier, mais il faut que l'alchimie prenne, il faut que la mayonnaise elle prenne. Et tant que je verrai pas que entre guillemets, Xavi aura mis quelque chose de très cohérent avec les recrues qu'il aura eues, je ne pourrais pas me positionner là-dessus.
C'est vrai
Moi, ce que je
que
comprends pas, c'est De Jong, quoi.
Oh!
Qu'est-ce que
Oh,
c'est que De
c'est
Jong?
qui? C'est qui? C'est
Avec les
qui? Mais c'est
patrons en
encore
plus,
lui!
les canons.
Mais c'est encore lui! Merci Samir! Mais c'est encore Samir! Top 3 pour la C1.
Faire 2-0pour
22-23,
renflouer
Liverpool
la dette
City
du
Bayern.
Barça. Tiens, on met Donnarumma à Carman.
Liverpool, je ne suis pas sûr. Liverpool, je suis pas sûr.
Ah, Liverpool, franchement.
Moi, Liverpool, je suis pas.
D'ailleurs, tant mieux. Tant mieux. Merci pour la passerelle, Samir. On va enchaîner avec Liverpool. Vous voyez Liverpool où dans le top 3, enfin dans le top 5 pour l'année prochaine? Z, tu avais l'air très anti
Non, je suis d'accord avec
Liverpool
lui.
là-dessus.
Le truc, c'est que Liverpool, ils ont perdu leur recruteur en chef. Et ça fait très, très, très mal. Et ensuite de ça, déjà l'année dernière, il y avait presque des images de l'année de trop. Il y avait besoin de changement. Là, ils perdent Mané. Alors après, j'ai pas, enfin, j'allais essayer de cheater pour aller vite récupérer les mouvements qu'ils ont fait en dehors de Mané pour voir s'ils ont des trucs. Mais d'une manière générale, j'ai presque l'impression qu'on arrive dans l'année de trop après l'année de trop à Liverpool et je les mettrais, alors peut-être sans doute plus haut que le Paris Saint-Germain, mais pas aussi haut que les saisons précédentes où vraiment c'était une machine.
Alors, juste pour info, Edwards est parti, mais il reste Ian Graham, il reste Tim Waskett, il reste Spearman, tout ce groupe
Oui.
data analyst qui est fait. Ils perdent quelqu'un qui a été là-dedans, mais ça resterait cohérent et c'était déjà remplacé pour le groupuscule, le
Perdre le
groupe
mec qui a
manager.
organisé tout ça quand même. Il pète
Ouais,
le perd.
mais
C'est pas rien. C'est pas rien comme.
t'inquiète pas pour eux, là. Ils veulent boucler Mateus Nunez au milieu, c'est très intelligent.
Oui, il y a
Darwin
Dani.
Nunez, on verra ce qui se passe, mais il ne faut jamais enterrer Liverpool. Je ne les voyais pas là, forcément l'année dernière par rapport aux années qu'ils avaient faites précédemment. Et ils se retrouvent en finale et ils doivent la gagner si, dans un monde normal, si le football était un sport logique.
De fou. Et toi, Cap?
Liverpool, moi, je mettrais plus une année de transition qu'autre chose. Parce que pour moi, je trouve qu'ils ont quand même atteint des limites et que dans tous les cas, c'est assez frustrant, je trouve, pour un groupe de se donner à fond toute une année et que tu as un géant devant qui à chaque fois met des bâtons dans les roues. Quand tu sais que Liverpool a gagné que un seul titre en 30 ans, c'est assez compliqué. Et pour le coup, moi, je trouve que Liverpool, ils ont perdu Mané, qui était quand même une grosse tête au sein de l'animation de club. Et quand c'est que club, bah, quand on regarde bien les choses, il n'a pas eu de neuf depuis son passage à Liverpool. Il a eu peut-être Sturridge à la limite, mais tu as eu Firmino qui était un faux neuf. Tu as eu Jota qui est arrivé, qui a joué pris le rôle de faux neuf. Tu as eu Mané durant cette année qui a pris ce rôle aussi. Et justement, c'est peut-être une vraie année où justement il a peut-être suivi Guardiola aussi, dans notre sens, où il a récupéré un vrai numéro 9. Et justement, ça va être intéressant de voir l'animation qu'il mettra en place. Mais pour moi, je trouve que à l'heure actuelle, Liverpool, s'ils sont plus dans une année de transition, ils vont devoir justement voir comment ça se passait avec les nouvelles recrues qu'autre chose.
Ok, voilà, on a fait Barcelone, Liverpool. Qu'est-ce que vous avez pensé du mercato du Real? Parce que certes, l'année dernière, ils ont gagné la Ligue des Champions, mais on a vu que c'était pas vraiment maîtrisé. C'était un peu. Bah, je sais qu'il y a plein de supporters du Real qui nous regardent, donc bon, je sais, ils vont me tomber dessus. Mais il y a eu un peu le destin qui est rentré là-dedans. Il y a un peu le fait que c'est le Real de Madrid et que certains clubs en face se sont. Je veux pas dire le mot dessus. Et qu'est-ce que vous pensez de juste l'ajout de Tchouaméni et de Rudiger? Est-ce que il aurait pas fallu faire une refonte un peu plus étendue que ça, vu que le club il a grave galéré l'année dernière en Ligue des Champions?
Bon, j'y vais. Je pense que le Real, c'est Kroos, Modric. Voilà, ils arrivent à leur fin et ils sont en train de gérer justement cette transition au milieu. L'année dernière, ils ont gagné sur les qualités réelles et ils ont un peu renoncé au jeu. De manière générale, le Real, le jeu, ça n'a jamais été le fort. Mais en plus de ça, l'année dernière, c'était quand même en dessous, même si on a vu un Modric qui renaissait de ses cendres et qui était hallucinant. Mais là, ils sont en train de préparer le futur. Donc peut-être pas l'année dernière, cette année les voir potentiels vainqueurs de Ligue des Champions, mais les voir dans les 2 3 ans à venir. Enfin, pour moi, ils sont en train de se renouveler, ils font exactement ce qu'il faut faire et ils sont très cohérents.
Basto.
Le Real sera toujours dans le top 3
Oui.
des équipes qui peuvent la gagner, quoi qu'il arrive.
En plus, oui. Parce que c'est le Real.
C'est un peu de la triche, mais vas-y, hacker.
Ah bah après, de toute façon, ça tout dit. Sur le milieu, ils ont déjà utilisé. Il y a déjà Valverde, Camavinga qui a porté en fin de match et qui sont déjà là pour remplacer les Kroos Modric. Tu rajoutes en plus Tchouaméni à l'équation. Donc au milieu, même quand Kroos et Modric partiront, la transition est déjà en train d'être faite. Devant, tu as Vinicius et Rodrigo qui commencent aussi à prendre du galon. Et tu avais derrière, tu avais peut-être un manque, et Rudiger qui arrive, bah, ça apporte un peu plus de concurrence et un profil différent. Donc c'est plutôt intelligent. Ouais.
La seule chose qui leur manque, c'est l'attaquant qui à terme remplacera Benzema, parce que Benzema commence à avoir un peu d'âge. Mais tu vois,
Kylian?
c'est pas facile comme argument. C'est juste, c'est le Real. Et c'est vrai, c'est le Real. C'est cette équipe où, t'as des fois, ils vont jouer en dessous de tout. Combien de campagnes de Ligue des Champions ils commencent en se prenant des tôles, dans les phases de poule et qui vont gagner à la fin. Tu sais, ils l'auraient fait qu'une seule fois. Ouais, ça serait effectivement de la chance, etc. Tu pourrais tout résoudre ça avec un argument. Mais à l'arrivée, non, ton seul argument pour le Real Madrid, c'est que c'est le Real. C'est-à-dire que tu peux pas tout le temps te réfugier derrière l'arbitrage, tu peux pas tout le temps te réfugier derrière des parcours faciles. Regarde celui qu'ils ont eu l'année dernière. Et c'est le Real. Et c'est pas un argument facile, c'est juste, ça devient un argument objectif, à défaut de pouvoir trouver un argument rationnel pour expliquer ce phénomène, cette adéquation qui est entre cette équipe et la Ligue des Champions. C'est juste, c'est le Real. C'est pas mieux.
Y a Code Lucky qui nous dit qu'on parle de quoi. Alors, ouais, parce que je vois, il y en a qui nous disent pourquoi on parle du Real. Alors, en fait, on est en train de voir la hiérarchie du PSG par rapport aux autres clubs au niveau, entre guillemets, des favoris pour l'année prochaine, parce qu'en général, les bookmakers, ils font des favoris, même si la règle du terrain, c'est autre chose. Mais c'était intéressant de voir la perception du PSG, parce que l'année dernière, moi, personnellement, quand tout le monde disait, je ne sais pas si vous avez vu, à un moment, RMC, ils avaient fait un truc avec des étoiles. Ils avaient mis le PSG 5 étoiles avec Chelsea et City, je crois. Et les autres, ils étaient plus bas. Le Real, ils étaient à 3 étoiles carrément. Et moi, je trouvais que ce truc, il était trop haut. Parce que je me disais, bah, en fait, à quel moment on a 5 étoiles? L'année d'avant, on s'est pris une leçon tactique par Pep Guardiola, et il nous a mangé match aller-retour. Et l'année d'après, on est 5 étoiles parce que Messi il est arrivé. Mais c'est pas comme ça le football. Le milieu de terrain, il était toujours, c'était toujours le néant. Donc, en fait, le sujet, c'est est-ce qu'avec les changements qui ont été faits, est-ce que le PSG, vous pensez qu'il est à 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, et quel club est devant nous, selon nous? Alors, Hacker, toi qui es enfin, supporter du Barça, tu vois la Liga régulièrement, tu penses quoi du placement du Real? Est-ce que tu penses qu'ils sont un peu devant le PSG pour l'année prochaine?
Si on prend les faits, oui, mais sur le papier, pour moi, non. Parce que la saison qu'ils ont faite, ils le feront une fois, mais pas deux. C'est-à-dire que je pense que quand même, ils ont eu des signaux, il y a eu des signaux, qu'on le veuille ou non, le Real, défensivement, c'était pas du tout solide. Et qu'on le veuille ou non, offensivement, Benzema, c'était vraiment son année, vraiment, c'était vraiment son année, on ne pouvait rien faire du tout. Et le fait qu'il soit présent, justement, au sein de l'effectif, ça a beaucoup apporté au Real. Et quand tu vois justement que défensivement, pour moi, ce n'était pas solide du tout, on va pas commencer à se mentir entre nous. Quand on voit le match face au City, le match face au PSG à l'aller, je suis désolé, mais je pense que c'est des zéniths pour moi. Et je pense que justement, oui, comme il a dit, c'est le Real, qu'on le veut ou non, c'est le Real, c'est sa compétition. Mais pour moi, ce genre de choses-là qui s'est produite cette année, ça n'arrive qu'une fois et pas deux fois.
Ok, après il y a un autre club qui a fait un mercato qui est, je
Voilà.
trouve, un peu.
Le
Hein?
Real. Excuse-moi, juste le Real, en fait,
Vas-y.
des années comme l'année précédente, en fait, ça doit être leur quatrième ou cinquième, si tu comptes toutes les années avec Zidane, etc., etc. Ils n'en sont pas à leur galop d'essai, justement, l'année où, ah non, ils ne devraient jamais aller aussi loin, et ils vont aussi loin, quoi. C'est la quatrième ou cinquième fois qu'ils te le sortent.
Ouais, c'est vrai, mais bon, après, quand je regarde l'effectif, moi, quand je regarde ce qui se passe à l'heure actuelle, quand tu vois au niveau des attaquants, c'est compliqué, ils n'ont pas d'ailier droit, ils ont que Vinicius Benzema. Tu vois que le milieu de terrain, t'as encore beaucoup de vieux, et qui Ancelotti, c'est pas vraiment un mec qui fait lancer des jeunes, même si j'espère cette année, il va lancer quand même Camavinga définitivement. Et le seul point où je dirais où c'est assez cohérent, c'est au niveau du poste de défense centrale, où ils sont vraiment bouchés, c'est très très bien, je trouve. Mais les latéraux, Mendy n'est pas fiable, il se blesse tout le temps. Carvajal, c'est pas un mec qui a fait une très bonne saison à part sa finale, mais c'était pas forcément cohérent. Mais pour le coup, le Real a quand même pas mal de choses à régler, notamment en attaque. Parce que quand tu vois qu'ils étaient prêts à mettre le paquet sur Mbappé, que d'un seul coup, dès qu'il a refusé, plus rien, bah, c'est qu'il y a un problème. Je crois qu'il n'y a plus de planification non plus derrière. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ce qui se passe cette saison. Mais pour moi, quand tu vois tous les cadres européens se renforcer de manière drastique, pour moi, le Real ne fera rien du tout.
Pour l'instant, le mercato n'est clairement pas suffisant de recruter deux joueurs qui ne sont pas meilleurs que des titulaires et on n'a aucun départ significatif. Il y avait deux questions que j'avais notées. Il y a Younes qui me demande où est-ce que s'en est Renato Sanchez. Alors, on n'est pas des insiders, j'en sais absolument rien. Et ça, c'est juste drôle. Que pensez-vous des attaques de la Liga sur le contrat d'Mbappé? Pensez-vous vraiment qu'il y a un danger? Alors, moi, je ne suis pas du tout insider, mais je pense qu'il y a absolument zéro danger. Et il ne faut pas t'inquiéter là-dessus.
Ah bon, voilà, il faut comprendre.
Alors,
Mais
il y a, y
parce
a
que
un autre club.
c'est
Ouais,
arrivé
vas-y, passe-moi.
aujourd'hui, hein,
Ouais,
leur
j'ai vu.
attaque et tout, mais ce n'est
Ils
pas
ont été
passé.
déboutés pour l'instant.
Donc maintenant, il y
Ils ont
aura un
été
appel sécuritaire.
déboutés en procédure d'urgence, mais ça va être
Voilà.
étudié sur long
Ah
terme.
bon,
Bah,
on connaît la réponse finale.
mais
C'est bon.
c'est Ravier Tebas. Voilà.
Sébastien pense que Liverpool, City, Bayern, Real et Barcelone sont devant nous probablement pour la saison prochaine. Alors, il y a un autre club qui a fait un mercato un peu quelconque. Enfin, je trouve que ça part un peu dans tous les sens. Et je trouve que ce serait intéressant si on les rencontre en huitième ou en quart ou en demi. C'est retrouver de vieux amis qu'on avait il n'y a pas si longtemps, qui sont partis du côté de Londres et qui aiment s'habiller en bleu. Qu'est-ce que vous pensez des transferts de Thomas Tuchel, notre cher ami, notre cher entraîneur, qui a pas de fans aujourd'hui parce que Basto, il n'aime pas, Dreyas, il n'aime pas, moi non plus. Il y a peut-être, je crois, il y a Barry qui est fan de Tourelle.
Ouais, j'ai beaucoup
Bah écoutez, qu'est-ce que vous pensez du mercato de Chelsea? Je sais qu'ils ont ramené, enfin là, ça va ramener Koundé, parce que désolé, Ackermann, mais j'ai l'impression que il
Change
va
ta
plus
pépé
par
de Twitter.
là. Il va plus par là. Il y a qui encore qui est arrivé? Il y a
Koulibaly.
Sterling. Il y a Sterling.
Sterling.
Et Koulibaly.
Eh, ça. Non, je retire ce que j'ai dit, c'est pas quelconque du tout. Je trouve qu'ils se sont bien renforcés. J'avais oublié Koulibaly. Je trouve que Chelsea, l'année prochaine, et en fait, moi, je vais vous dire quelque chose sur les clubs comme Chelsea. C'est les clubs qui me font peur parce que c'est le genre de club, tu sais très bien qu'ils ne vont pas gagner la Première Ligue. Donc, en fait, ils vont jouer la Ligue des Champions. Tu vois, Liverpool et City, quand ils arrivent en finale de Ligue des Champions, Moi, je savais que Liverpool, ils n'allaient pas avoir la force qu'ils ont d'habitude. Ils étaient morts. La première ligue, ça te tue. Comparé au Real en Liga qui joue. Vas-y, ça fait. Je sais pas combien de temps ils ont gagné le championnat. Paris, c'est pareil. Le Bayern, c'est pareil. Je trouve que les clubs de première ligue, quand ils arrivent en fin de Ligue des Champions, ils sont morts. Et Chelsea, on sait très bien qu'ils ne vont pas être champions. Donc, qu'est-ce que vous pensez de Chelsea l'année prochaine? Attendez. Attendez, il se passe quelque chose.
Allez. Attendez.
Mais non, c'est qui?
Ah,
suspense. Mais c'est encore lui.
5 euros pour les frais d'avocat du Barça, c'est gentil. C'est gentil.
Merci Samir.
C'est pour la Liga, c'est pour Tebas.
Mais Samir, c'est Tebas, hein. C'est Tebas, c'est Tebas, c'est un peu Tebas.
Pour Chelsea, si je peux réagir.
Vas-y.
Tourelle aime les défenseurs centraux, donc il en a pris deux qui sont plutôt de bonne facture. Après avoir comment ça se met en place, Koulibaly, Silva, Koundé, ça va pas forcément être facile et rapide. Ils avaient trouvé un équilibre avec Rudiger, qui avait fait quand même une saison assez monstrueuse. Sterling, c'est aussi un joueur qui convient un peu à ce qu'aime Tourelle. Il avait son Dembélé à Dortmund, là il retrouve un joueur un peu de provocation. Après, il n'a pas réglé certains points faibles, notamment le milieu qui commence à être défaillant. On a un Kanté qui était un peu en deçà l'année dernière. Ils ne vont pas apporter de la concurrence. Et il y avait des problèmes de remplaçants pour les pistons. Et ils ne les ont pas non plus réglés. Et sachant que le mercato anglais, je crois, se finit fin du mois de juillet, il me semble. S'ils n'ont pas réglé ces problèmes-là, ils risquent de retrouver les mêmes problèmes dès qu'il y a quelques absences.
Après Koundé, ça changerait la donne, hein, Basto, pour le coup, justement pour ces problématiques-là.
En défense, mais au milieu et sur les pistons offensifs, non. Le problème de profondeur de banc, elle n'est pas réglée là-dessus. Pour le moment, c'est numérique. Hein. Ils avaient un problème de profondeur de banc, pour le moment, c'est assez numérique. Tu as Christensen et Rudiger qui partent, et tu as Koulibaly et Koundé qui arrivent. Et tu as Azpilicueta en plus qui est parti, qui pouvait jouer à la fois piston et central. Donc, ils ont toujours un problème de profondeur.
Hakar, tu as suivi un peu Chelsea, même si je sais que tu as le seum et tu n'as pas trop envie de parler de Koundé, mais bon, vas-y, donne ton avis sur les.
Mais pour le coup, par rapport à Chelsea, je trouve qu'ils ont un mercato très très intéressant. Je trouve qu'ils sont beaucoup renforcés. Il y a pas mal d'incertitudes au niveau de la défense quand ils avaient perdu Rudiger, qu'ils vont perdre aussi Aspi dans pas longtemps, qu'il y a pas mal de gens sur le départ, etc. Donc c'est assez compliqué. Et se renforcer avec Koulibaly, qui pour moi fait partie des références à son poste. À l'heure actuelle, quand tu vois qu'il récupère Koundé, qui est un très bon jeune, un très bon prospect pour l'avenir. Et je pense justement que les profils sont bien. Je trouve qu'il y a une cohérence au niveau des recrues. Quand on sait que Thiago Silva, c'est plus justement le mec qui sera peut-être au poste central. Koundé sur les côtés et Koulibaly à gauche, je pense. Mais je trouve que pour le coup, c'est très, très intéressant. Après avoir la profondeur de banc aussi, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des remplaçants de Chelsea. Mais je trouve que c'est un effectif assez, assez intéressant. Ils ont recruté Sterling qui arrive à pleine maturité du côté de City. Ils ont récupéré aussi Gallagher qui est un excellent prospect du côté de la PL, qui a fait une excellente saison du côté de Crystal Palace. Et je trouve que pour le coup, ils ont vraiment récupéré un effectif assez large comparé à l'année dernière. Après, comme il a dit Basto, c'est qu'au niveau des défenses, c'est pas ce problème. Parce que quand on a vu que Chilwell il a été blessé, ça a été compliqué. Quand on a vu que Christian, ça a été blessé, c'était compliqué aussi. Et je pense qu'ils vont devoir se pencher justement sur des profils intéressants pour justement faire gaffe aux blessures et ne pas se retrouver entre guillemets dans de mauvaises postures s'il y a des blessures.
Effectivement, ça finit. Ils ont remis en sève comme tout le monde le mercato à fin août, 1er septembre. Ils l'ont fait que l'année dernière, du coup, comme nous a dit un commentaire.
Moi, je vais juste dire qu'il leur manque un œuf. Après, ça va être le problème de Chelsea. Mais je tenais à dire également qu'il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose. Mais c'est qui? Merci Samy. Ah, Samir Zidane.
Il a gagné l'unique.
Tu as de la concurrence. Merci les gars, merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Vous avez un autre club auquel vous pensez que j'ai pas pensé qu'il peut être. Ah non, on n'a pas encore parlé du Bayern, je suis un malade.
City, moi personnellement. Ah non, City, tu l'as abordé, c'est vrai, Munich, oui, il manque Munich.
Ah mais ben, City, on n'a pas parlé.
City, on n'avait pas réagi.
Les Palombes, par exemple, qui est important.
Ah mais City, on l'a pas dit.
Ah oui, on n'a pas parlé de City, il nous manque City et le Bayern. Alors, City, moi je te laisse Z parce que.
C'est Basto.
Ils ont recruté ton protégé.
C'est un bon.
Attendez les gars, je suis obligé de vous couper parce que ça part en vrille. Il se passe des choses dingues. Mais qu'est-ce qui se passe? Hey, c'est lui.
Ah, à nouveau.
Hey, c'est Florent, bienvenue parmi nous, Florent.
Un supporter, merci.
Merci Florent. On te kiffe aussi Florent. Supporter de la GIA en plus, ça a encore plus de valeur. Même supporter du PSG, on aime tous Giroud. C'était la base du foot à l'époque de Djibril Cissé et tout ça qu'on a commencé. C'était vraiment un club qu'on aimait, même si on était parisien. Mais je crois qu'il se passe encore des choses, c'est une dinguerie. Mais c'est Jonathan. Jonathan est avec nous. Bonjour Jonathan. Merci.
Il a créé des
faux comptes
qui nous arrosent ou
Même elles sont ici. On est en train de parler de City. Z, on va te laisser la parole parce que tu es un peu en deuil. Et je pense que tu es un peu en deuil parce qu'ils ont recruté le joueur que tu voulais au PSG. Et on te laisse parler de Manchester City et de Calvin Phillips.
Ils ont trouvé le remplaçant parfait à Rodri. C'est-à-dire qu'effectivement, il amènera un autre style de jeu, ça sera un peu plus statique qu'avec Rodri, mais ils ont vraiment trouvé le remplaçant parfait à Rodri. City, c'est vraiment une équipe huilée à voir si Bernardo Silva part. Mais si Bernardo Silva part pas, c'est vraiment une équipe huilée. Ils ont et le banc et les titulaires. Et je trouve que justement, pour moi, le transfert qui est vraiment signifiant pour City, c'est pas tellement Calvin Phillips qui arrive vraiment en doublure de Rodri, qui permet peut-être une variation technique, qui va pouvoir poser un peu plus de muscle au milieu, notamment au match Première Ligue quand il en faudra. Mais ça va être surtout Haaland. À voir si, mais je pense que s'il le recrute, c'est qu'il a une idée en tête pour Guardiola, mais ça va avoir pas mal d'impact sur l'organisation offensive. Mais ils vont avoir le poids devant qu'ils n'avaient pas avant. Ils étaient systématiquement obligés de quasiment arriver à 25 dans les 30 mètres adverses. Là, ils vont pouvoir trouver des solutions dans des contre-attaques avec un joueur qui part tout seul et qui n'aura pas forcément tout le bloc équipe qui sera en train de monter. Donc, à voir comment ils vont l'intégrer. Mais je pense que ça, c'est Basto qui va vraiment geeker sur le Haaland à City.
Tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que les problématiques de City, c'est un vrai neuf de finition. Ils avaient un jeu qui était un peu trop, parfois, ils épuisaient l'adversaire, ils attendaient la faute de l'adversaire, mais des fois ils avaient du mal à conclure avec cet attaquant de surface. Et ils recrutent Phillips, comme tu l'as dit, qui est plus le remplaçant de Rodri, mais qui du coup remplace Fernandinho dans ce côté quand il veut un peu garder un score. Ils faisaient rentrer Fernandinho et souvent ça desservait City et il se faisait rejoindre parce que la Fernande, il vieillissait un peu. Donc là, Phillips, il peut apporter un autre jeu, un autre équilibre dans le moment où il faut garder le score tout en gardant une continuité dans le ballon. Et ils ont aussi Alvarez en prospect qu'ils ont pris en attaquant, qu'ils ont pris en Argentine. On va voir ce qu'il vaut, est-ce qu'il va être prêté ou pas, ou est-ce qu'il va être dans la rotation. Et ils ont très bien vendu parce qu'avec ses arrivées, ils ont vendu Jésus pour plus de 50 millions, Zinchenko pour plus de 50 millions et Sterling pour plus de 50 millions. Donc, ils n'ont pas de problème de trop de joueurs qui se retrouvent en même temps à pouvoir jouer. Donc, ils ont un effectif qui est de même quantité que l'année dernière. Donc, il va pouvoir faire sa rotation avec deux équipes quasiment type Guardiola. Donc, il a juste changé, lui, pour le coup, les petits défauts, mais il n'a pas besoin de faire beaucoup plus, puisque de toute façon, City
est... Juste attends, sur Haaland, Basto.
Quoi, sur Haaland? Pour City, c'est bien, moi je ne voulais pas au PSG, mais pour City, il en manquait un attaquant de surface. Maintenant, Guardiola, et tu sais très bien comment il arrive à moduler ses équipes, où il peut quand il n'avait pas Haaland, justement, il avait plus d'ailier de débordement, il peut le retrouver, ça c'est pas un problème, même si justement t'as plus Sterling là-dessus. Mais tu sais très bien comment il Guardiola, c'est soit tu commences les actions dans l'axe et tu les finis sur les ailes, soit tu les commences sur les ailes et tu les finis sur l'axe, il va revenir à cette deuxième solution, ça c'est pas un souci pour lui.
Akar, t'en penses quoi de ce qui se passe du côté de City?
Comme d'hab, hein. on parle de ça, mais chaque année c'est la même chose. Enfin, ils vont sur le mélange, ils font un mercato encore une belle fois intéressante. Ils ont ramené Alvarez, qui est un excellent joueur du côté championnat argentin. Ils te ramènent Haaland, qui n'ont pas besoin de parler de lui. On connaît déjà le monstre qu'il est. Je pense que les Parisiens ont fait des cauchemars là-dessus. Ils sont aussi en train de cibler Cucurella aussi, un arrière-gauche de Meche. Donc, ça peut être intéressant. Et comme il a dit Basto, c'est qu'ils vont avoir encore des équipes. Après, moi, là où j'ai une autre interrogation, c'est au niveau de l'animation. Parce qu'on sait que City, c'est une équipe qui s'entraîne beaucoup l'année dernière. Et je pense qu'avoir un œuf de fixation dans l'effectif, ça va peut-être leur faire du bien, justement, d'avoir un mec qui finit enfin les actions. Parce que quand on sait que City est une équipe qui tourne autour de quasi 15-20 occasions par match, on sait qu'ils avaient souvent tendance à pêcher au niveau de la mission, ce qui a fait aussi leur défaut en Ligue des Champions. Et je pense que justement, j'ai l'impression que leur mercato cette année, il est plus ciblé sur la LDC qu'autre chose. Je pense qu'ils la paient, ils l'ont déjà assez plié, même si je pense qu'ils vont quand même la jouer à fond. Mais je pense que ce qui s'est passé cette année avec le Real Madrid, ça fait une grosse tâche pro pour eux, je pense, et qu'ils vont vouloir montrer une nouvelle image. Et je pense que cette année, ils vont vouloir tout casser et montrer qu'ils sont là, quoi.
Alors, moi, de ce que j'entends, moi, on va maintenant parler du club qui, pour moi, je trouve, c'est le mieux renforcé. Parce qu'ils ont donné à leur coach, que je trouve qui est plutôt bon, de quoi jouer avec son système de jeu. On va maintenant parler du Bayern de Munich, qui, pour moi, quand même, va manquer. Il va leur manquer peut-être un petit un neuf. Mais je trouve qu'ils se sont bien renforcés. Ils ont pris des profils qui vont permettre au Bayern de jouer autrement que leur 4-2-3-1 qu'ils jouaient l'année dernière. Et Nagelsmann, il pourra vraiment briller parce que sa sortie l'année dernière de la Ligue des Champions, elle n'était pas fameuse. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ils ont une équipe de fous. Déjà, Lewandowski est parti, mais ils pensent peut-être à le remplacer. Donc, le mercato n'est pas forcément fini pour eux. Après, dans leur animation qu'ils veulent mettre, qui pourrait être soit un 4-4-2, soit une défense à 3, il peut jouer très bien avec deux attaquants de profondeur, comme il a fait hier, où tu avais une attaque Mané-Gnabry. Et on va dire le profil un peu plus créateur en retrait qui serait Müller ou quelque chose comme ça. Mais l'animation sera différente, mais c'est un jeu qui correspond plus à Nagelsmann, fait de mouvement et de rapidité. Donc là, quand tu prends Mané, quand tu prends Gravenberch pour entrer dans la rotation du milieu, quand tu prends Mazraoui qui va se retrouver arrière-droit à la place de Bouna Sarr, je pense que tu fais quand même une bonne évolution en tant que doublure en arrière-droit. Quand tu prends De Ligt qui lui risque de remplacer un Pavard qui serait sur le départ, là aussi tu upgrades quand même pas mal ton champ de possibilités. Donc oui, là ils font un mercato qui est au quasi parfait, quoi. Il leur manquait un milieu de rotation, par en plus de Leimer qui pourrait arriver pour être en rotation avec un Thomas Müller dans ce rôle un peu de faux 10. Mais donc, il n'y a rien à dire là. Ils font un mercato peut-être le plus clinquant et le plus dépensier qu'ils ont fait depuis très longtemps. Mais ça va être dur à battre. Ouais.
Avant de passer la parole à Hacker, merci à Florent qui nous a rejoint et qui est devenu un membre de la team Paris Central. D'ailleurs, n'hésitez pas, on a des abonnements dans la description si vous voulez vous abonner pour notre groupe Discord privé. On en rigole toute la journée au Basto, je vous préviens. Il est exécrable toute la journée et il crie sur le PSG. Il dit que Campos out, Gay out, toutes sortes de choses. Si
Ça
vous
oui.
voulez rejoindre le groupe Discord et devoir supporter cet individu toute la journée, vous pouvez. En dehors de ça, il y a notre forfait où on a si vous voulez rejoindre notre équipe FIFA. Notre équipe FIFA, notre équipe MPG. Par contre, il va falloir faire vite parce que la saison elle va bientôt commencer. Donc, MPG, si vous voulez nous rejoindre et faire la saison avec nous, c'est bientôt. Ackermann, ton ressenti sur le Bayern?
Bah, ils ont enfin arrêté de faire semblant devant tout le monde de dire qu'ils n'ont pas de sous. Il était temps. Hein. On a arrêté de faire croire aux gens que le Bayern est un club pauvre, qu'ils n'ont pas d'argent. Ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ça. Mais je trouve que pour une fois, ils ont enfin donné des clés à un coach. Quand on sait, quand, je pense que c'est j'ai rarement vu le Bayern claquer autant d'argent sur un mercato. Et je trouve que c'est très important, justement, ça montre à quel point que justement la direction marche avec le coach. Et quand on voit les profils ciblés, je trouve que c'est tout ce qui manquait au Bayern. Bon, ils ont recruté un latéral droit, ils ont ramené Mazraoui gratuit, ce qui est un excellent coup, je trouve, quand on connaît les qualités du joueur. Ils ont ramené Gravenberch pour 20 millions. Quand on connaît la qualité entre guillemets, le futur qui lui est donné, bah, c'est un excellent coup aussi. Ils ont ramené Sadio Mané, bah, qui est un excellent joueur de foot du côté de Liverpool. Même si pour moi, ils ont perdu Lewandowski et que je pense que le ratio but va quand même baisser un minimum parce que Lewandowski, ça te garantissait quand même 50 buts par saison. Et là, je pense que c'est assez moins, mais je pense que le ratio but va être réparti dans tout l'effectif. Je pense que Gnabry sera la fois le taf, Mané, etc., devront entre guillemets bien s'acclimater. Mais même défensivement, on sait que l'année dernière, c'était assez compliqué quand on a vu que Sule n'était pas forcément bon. Quand on a vu que Pavard, bah, Pavard, quand t'avais, pardon, Lucas Hernandez qui était là, mais c'était l'un des seuls qui était entre guillemets bon à ce poste-là, et ramener justement De Ligt, je pense qu'aussi même pour le joueur aussi, c'est très intéressant de revenir au Bayern avec un entraîneur qui justement prône le football offensif. Quand on connaît justement son système qui veut mettre en place le fameux 3-5-2, mais hybride très offensif, je pense que ça peut vraiment marcher avec tous les joueurs qu'il a eu. Même si je pense qu'il manque quand même un petit milieu de terrain, je pense, parce qu'on sait que Goretzka, c'est assez compliqué ces derniers temps. Il se blesse pas mal, il se blesse beaucoup, je trouve. Et je pense que le ramener Leimer, je pense que ce serait vraiment la dernière pièce manquante pour moi au milieu de terrain. Et je pense qu'après, le mercato sera bouclé.
Bah, j'y vais rapidement. Bah, je trouve que justement, tu as Gravenberch par rapport à la problématique que tu soulevais, mais juste quand on entend Mané un peu plus vieux, mais pas si vieux que ça d'ailleurs, mais tu entends De Ligt, Gravenberch, Mazraoui. Il y a des mecs de 22 ans qui seront des cadors, qui sont déjà des cadors et qui seront des cadors dans les 2-3 ans à venir. Je pense que Gravenberch, les gens ne se rendent pas compte, c'est juste, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Moi, la seule chose, pas tout a quasiment été dit. La seule chose que j'aurais à ajouter, c'est que Nagelsmann, qui est parfois, je trouve, a tendance un peu à se trouver des excuses, mine de rien, bah, cette fois, il en aura plus, quoi.
Ça, c'est vrai. Bah, du coup, on a fait City et le Bayern. Moi, à la base, on était censé terminer là-dessus, mais il y a quelqu'un qui nous a lancé, nous a demandé qu'est-ce que vous pensez du Milan AC, qui va revenir, qui est champion et qui va jouer la Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous pensez des chances du Milan AC l'année prochaine?
Il veut commencer dans
ce épineux, vas-y, Bastou.
Vas-y. C'est compliqué. Les clubs italiens en ce moment ont du mal en Ligue des Champions. Eux aussi sont en plus comme les clubs français un peu bloqués dans leur mercato. C'est plus compliqué. Milan doit vendre. On voit qu'ils ont du mal. Ils vont peut-être se faire piquer Renato par le PSG parce qu'ils n'ont pas accéléré assez, parce qu'ils doivent vendre. Ils ont prolongé Ibra en attaque parce qu'ils n'ont pas forcément d'autres solutions pour le moment. Donc, ils n'arrivent pas à prendre de Cattelair qu'ils voulaient. Pour le moment, c'est trop cher. Donc, ils font des offres un peu au rabais et pour le moment, ils ne finalisent personne. Donc, c'est compliqué pour eux ce mercato. Cette année, quand ils ont joué la Ligue des Champions, ils ont fini dernier de la poule. Bon, certes, elle était relevée, mais quand même, est-ce qu'ils sont prêts pour aller loin? Je ne pense pas. Déjà, qu'ils passent les poules, je pense que ce devrait être un premier objectif pour eux par rapport à leur renaissance, on va dire. Mais je ne le vois pas comme un outsider très crédible.
Moi, je les ai trouvés très intéressants dans le jeu, mais c'est comme le dit Basto, ce n'est pas assez solide, il n'y a pas assez de répondants face aux premières difficultés et aux organisations qui seront très solides avec des équipes qui auront du vécu. Le Milan AC n'est plus le Milan AC qu'il était avant, et c'est vraiment une équipe en reconstruction. Et ouais, se donner un objectif, sortir des poules, ce serait un bon objectif pour eux, mais ils sont clairement pas dans le top 10 des prétendants dans la Ligue des Champions. Enfin, pour moi.
Hacker, toi.
J'ai la même. Et pour moi, à l'heure actuelle, c'est dur de dire ça hein, quand on connaît le grand club qui est là, c'est Milan. Mais on me dit demain, qu'il y a plus de chances de gagner la LDC entre Leipzig et la c'est Milan, je te dis Leipzig. Enfin,
la c'est Milan. Ils ont progressé, hein, Milan.
Ils ont progressé, mais on a vu que l'année dernière, en Ligue des Champions, dès qu'ils ont commencé à justement rencontrer, comme tu l'as dit, des difficultés, pas forcément, et que justement, c'est une équipe qui n'a pas d'expérience, on le voit de l'intérieur, et que ça pose quand même problème. Leur mercato me déçoit assez, je trouve, parce que bah, ils ont perdu Kessié, il n'a pas forcément été bien remplacé. Quand on sait que Kessié, c'est un mec qui est très très important, qui était très important du côté de Milan, notamment pour les chiffres du Scudetto, ça parle de Renato, mais quand on sait qu'il est plus. Bah, la tendance est plus du côté du PSG qu'autre chose et qu'il met du temps à s'accélérer sur le dossier. Même si ce qui peut les sauver pour moi, c'est le fait qu'ils soient dans le chapeau 1, parce qu'on sait que le chapeau 1, je peux tomber sur des poules qui sont un peu plus simples. Mais s'ils tombent sur une poule assez compliquée, quand on sait qu'il y a pas mal de gros dans le chapeau 2 et le chapeau 3 aussi, pas mal relevé, bah, je pense qu'ils ne sont pas quand même tirés d'affaires. Et je pense que pour moi, peut-être finir 3e serait déjà pas mal pour moi. Parce que l'effectif, pour moi, il n'est pas encore assez. J'irais bien, bien rodé pour commencer à viser les buts de finale.
Il y a Pitouch, ou Pitouch, je ne sais pas si tu le prononces en anglais, qui nous dit cette année, il y aura pas mal d'équipes surprises, je pense. Alors moi, c'est une théorie que j'ai également, et je ne pense pas que ça va être un club qui a l'habitude de la gagner, qui va la gagner. Je vous dis mon raisonnement vite fait. Les clubs sont rodés d'une manière, et la Ligue des Champions, c'est toujours pareil. Mais je pense que la Coupe du Monde, en plein milieu de saison, ça va déstabiliser beaucoup de gens. C'est ma théorie à moi, mais je pense qu'au retour de Coupe du Monde, les clubs qui ont plus de joueurs en Coupe du Monde qui jouent...
Nick, il m'a dit dans l'oreille qu'il voyait Marseille gagner la Ligue des Champions.
Je sais pas. Moi, je dis juste que les clubs qui ont beaucoup, beaucoup de joueurs qui jouent la Coupe du Monde, les gros, gros clubs, ça dépendra de ce qui va se passer. Parce qu'il y a des joueurs, par exemple, nous... Si ça se passe mal pour le Brésil, il y a moyen qu'on perde Neymar pour le reste de la saison. Je parle au niveau dans la tête. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Et peut-être que le Real, par exemple, risque de se brûler aussi. Dernière petite question avant de terminer le live. On va revenir un peu sur le PSG. Là, on a classé le PSG après Chelsea, après City, après Liverpool, après le Real. On a dit après le Bayern, donc là...
Chelsea, pas forcément, dirait... mais ouais.
Après Chelsea, t'as dit pas forcément?
Ouais, non, pour moi, c'est au même niveau que Chelsea. Je le mets pas derrière.
Non, moi, j'allais dire... Moi, j'allais pour le coup. Moi, j'allais, je mettrais les mêmes au-dessus. Enfin,
je sais pas. Bon, on va dire que là, vous nous mettez top 5 pour la saison à venir. Parce qu'après, tout ce qu'il y a à apprendre, on a dit que c'est en dessous. Donc là, vous dites entre guillemets que le PSG il est top 5. Dernière petite question. Au niveau du mercato du PSG, pour revenir sur le PSG, il y a Alex qui nous disait notre 11 type, il est incroyable, mais le banc, c'est dur, c'est ça le souci. Et est-ce que, en fait, notre mercato, entre guillemets, il n'est pas assez axé sur entre guillemets, les personnes qui vont rentrer ? Parce que certes, il a raison, au milieu, on a des problèmes, mais tout le reste, comme il disait, je crois que c'est Hacker qui a dit ça tout à l'heure, quand tu as un crack qui sort, derrière, c'était Draxler ou Wijnaldum. Attention, ça, c'est quand tu faisais rentrer Draxler en Ligue des Champions parce que tu n'avais pas le choix. Est-ce que vous pensez qu'on travaille bien là-dessus pour la saison prochaine ?
Le problème, c'est que t'as effectivement, tu as ce problème-là, mais tu n'as déjà pas de certitude à 100% sur ton 11 titulaire. Tu vois, par exemple, on parle de Ramos. Ramos, est-ce qu'il a 20 matchs dans la saison? Bah, c'est pas sûr. Est-ce qu'il sera vraiment à l'aise pour jouer côté droit? Bah, c'est pas sûr. On parle de Hakimi. L'association Hakimi-Ramos va-t-elle fonctionner? Bah, c'est pas sûr. On parle du fait de jouer avec Messi Neymar devant qui va créer tout un tas de problèmes. Est-ce qu'on va solutionner ça? On parle du fait que Vitinha est le remplaçant, a priori, vu la manière avec laquelle les matchs se déroulent, de Marco Verratti. Enfin, tu vois, le truc, c'est, en effet, il y a des problèmes avec le banc. Il y a aussi des problèmes au niveau des titulaires. Il y a tout un tas d'incertitudes sur le sujet. Alors, certaines vont être résolues parce que pour l'instant, on n'est qu'en préparation. Il y a un rythme qui va se trouver. Il y a des matchs qui vont se trouver, etc. Et on va avoir certaines réponses. Mais on n'est pas non plus dans une situation où ouais, on a 11 mecs où on est sûr et puis c'est bon, ça marche, tout est cool et tout est bénef, quoi.
On a peut-être un 11 qui est beau et claquant sur le papier, mais je le trouve absolument pas en l'état actuel complémentaire. Donc, ouais. C'est bien d'avoir des joueurs de rotation. Effectivement, si tu as Ekitike, Sarabia qui rentre, c'est mieux que ce qu'on a eu ces dernières années. Mais le 11, il faut le travailler quand même.
Ouais, bien sûr, au milieu de terrain, c'est plus que le travail. Là, c'est une refonte globale.
La charnière aussi, Nix.
Ouais, bah, la charnière, oui, absolument. Si on veut passer dans une défense à 3, absolument. Après, si on n'a pas le budget pour acheter un grand défenseur et un grand milieu de terrain, vaudrait mieux acheter un grand milieu de terrain et rester à 4 derrière. Parce que si tu mets les 70 millions sur Skriniar et tu n'as pas de quoi acheter un milieu de terrain pour faire la liaison entre les deux, on aura toujours le gros trou entre les deux. Et ce que tu dis souvent, Andreas, les contre-attaques, il n'y aura personne pour les bloquer.
Ça, bien sûr, mais le souci, si tu fais ça, c'est que tu es déjà dans un désaveu de tes intentions de début de saison. Thier a littéralement dit oui, nous allons jouer à 3. Il l'a dit à deux reprises. Et pendant sa présentation et pendant la conférence de presse, je veux dire, et pendant l'interview qu'il a faite à l'équipe. Ensuite de ça, tous les matchs qu'on a fait, ça a été des trucs de défense à 3. Et donc, si tu repasses dans une défense à 4 en début de saison, ça va jaser, ça va critiquer, ça va machin, ça va truc. Ah, ben en fait, Paris a pas pu, blablabla. Et donc, du coup, tu t'es mis dans une situation où, d'une certaine manière, tu es presque obligé de jouer dans une défense à 3, là.
Bah, c'est vrai que maintenant qu'il a dit, il peut pas trop faire marche en arrière. Mais après, moi, ce que j'aime bien avec la défense à 3, c'est que, en fait, moi, je la voulais déjà chez Pochettino parce que je trouvais qu'on était plus fort en défense qu'au milieu de terrain. Et on n'avait pas 3 milieux de terrain de qualité, mais on pouvait en avoir 2. C'est pour ça que depuis l'année dernière, je disais, il fallait passer à 3. Là, on peut peut-être modifier ça, mais là, si tu n'as pas beaucoup de bons milieux, c'est vrai que si tu prends Skriniar à 70 millions, il te faut juste 2 bons milieux devant. Et là, tu l'as déjà un avec Verratti, après, il faut juste trouver le deuxième. On ne sait pas ce que Vitinha va donner. Mais c'est vrai que quand tu passes en défense à 3, tu n'as pas besoin d'avoir autant de bons milieux dans ton effectif.
C'est bon, regarde comment tu es en train d'aborder tranquillement le sujet de demain. Ça. Tac, tac, tac.
C'est une très bonne transition. Alors, moi, je vous explique comment il va se passer ce week-end. Alors, ce soir, on a parlé Mercato. Donc, c'était sympa et tout. Demain, on va parler plus football, tactique, tout ça. On va parler défense à 3 et autre chose, la tactique qu'on aimerait voir au PSG.
Le match amicaux qu'on a pu voir.
Et le match de demain, et on va débriefer le match de demain aussi, et on va revenir un peu sur le match de mercredi, parce qu'on n'a pas encore fait sur la chaîne. On va voir qu'est-ce qui commence à se dégager du fonctionnement de l'équipe. Et dimanche, on va parler plus gestion sportive, on va commencer à parler de Campos, et pas commencer à le remettre en doute, mais commencer à ouvrir un peu les premiers dossiers, les Skriniar qui bloquent, je sais pas encore qu'est-ce qui s'est passé d'autre. Il y a eu quelques petits couacs, comme aujourd'hui.
Le semi-loft. Gaï qui est dans le groupe.
Les messages mixtes envers Gaï, en fait. Tu pars, tu restes. Donc, il y a eu quelques petits couacs. On va essayer de revenir là-dessus. Et puis, voilà. Hein. J'espère que vous avez kiffé au moins le live de vendredi. Il y a un de vous trois qui veut rajouter quelque chose ?
C'est bon. Non.
Bah, je les ai fatigués, regardez comment ils sont épuisés. D'habitude, ils partent sans cesse avec tonton. Hé, hey, tonton, prends-en de la graine, regarde comment on anime une émission. T'as vu, ils sont tous fatigués, ils veulent tous rentrer chez eux. Voilà. Bon, bonnes vacances d'ailleurs, tonton, profite, on kiffe. Ah, je rigole. Ah, bah, écoutez les gars, passez une bonne soirée.
Aussi.
Et on vous dit à demain soir, 20h. Soyez présents et puis on va continuer à parler du PSG. Voilà.
Bonne soirée à tous.
Salut à tous.